Les matins de France Culture débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. 150 000 élèves de 6e et de 5e reviennent en classe dès ce matin dans les régions classées en vert, les moins touchées par l'épidémie de Covid-19. Les autres devront attendre la fin du mois pour savoir quand ils pourront reprendre les cours.
Classe fermée en revanche à Fleury-les-Aubrais près d'Orléans. La maire de la ville l'a décidé hier après la découverte d'un nouveau foyer, pas cluster, de contamination dans un abattoir.
34 cas effectivement confirmés dans le Loiret, 69 autres dans un abattoir des Côtes d'Armor. L'Allemagne est également touchée. Pourquoi ? Réponse dans ce journal.
Le 28 juin, nouvelle date, peut-être pour le second tour des municipales, le gouvernement attend l'avis du conseil scientifique.
La contestation sociale se réveille. Des centaines de gilets jaunes ont bravé l'interdiction de manifester ce week-end. Alors que l'état d'urgence a généré des centaines de recours. À la une encore, la pandémie de Covid-19, choc économique et social au Maghreb, et puis après 500 jours de crise, Israël a enfin un gouvernement, union de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz.
Et puis la question du jour, eh bien ça sera dans une dizaine de minutes, Catherine. Comment relocaliser l'industrie pharmaceutique ? On posera la question à Gérard de Pouvourville.
Le gouvernement se veut rassurant. Certes, 25 nouveaux foyers de contamination de Covid-19 ont été recensés en une semaine en France, mais le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel, a affirmé hier le ministre de la Santé, Olivier Véran. Des opérations de dépistage doivent donc se poursuivre aujourd'hui dans les Côtes d'Armor, puisque 69 cas ont été détectés dans l'abattoir de Kerméné, ainsi que dans le Loiret, à Fleury-les-Aubrais, où 34 cas ont été diagnostiqués. Là encore, dans un abattoir à Nogé.
L'assurance maladie, qui recueille les signalements des médecins de ville quand ils ont des cas positifs, n'a pas traîné à se rendre compte qu'il y avait un problème avec l'abattoir Tradival. Le premier signalement est arrivé mercredi dernier. Stéphanie Astier-Parigino, la directrice adjointe de la CPAM du Loiret.
Première fiche arrivée, un salarié de l'abattoir. Bon. Deuxième fiche, un autre salarié. Donc là, quand on commence à avoir deux, on s'alerte. Et là, effectivement, au bout de trois patients zéro dans un même environnement professionnel, c'est une alerte.
Dépistage massif, fermeture de l'usine, il faut très rapidement mettre à l'isolement les cas positifs. Mais les premiers chiffres qui sont tombés, l'ampleur sans doute de la contamination, a beaucoup inquiété les habitants de Fleury et tous les maires de la métropole. Métropole d'Orléans, les salariés de Tradival y habitent un peu partout. Ce sont autant de cas contacts possibles. Marie-Agnès Linguet, la maire de Fleury-les-Aubrais.
Tout le monde se sent concerné. Je pense en particulier aux collectivités dont la mienne qui ont rouvert les écoles. Ce qui nous a fait mal concrètement, c'est qu'on était en fin d'une semaine de déconfinement qui s'était plutôt bien passé, avec des retours s'agissant de la reprise de l'école qui était positive.
Et finalement, la décision est tombée hier. À Fleury, toutes les écoles restent fermées en ce début de semaine.
À Nogé de France Bleu, Orléans, le directeur général de l'ARS Centre Val-de-Loire estime que si de nouveaux foyers de contamination sont apparus dans les abattoirs, c'est peut-être à cause des difficultés à faire respecter les distances de sécurité pendant le temps de travail à la chaîne, mais aussi dans les espaces collectifs comme les vestiaires. En Vendée, encore une vingtaine de personnes travaillant dans un abattoir de volailles ont été contaminées. L'Allemagne également touchée, l'industrie de la viande qui était déjà critiquée ces dernières années pour employer en intérim des travailleurs étrangers, roumains, moldaves, albanais, aux conditions de travail déplorables. Le gouvernement veut durcir ce matin les réglementations. Précision à Berlin de Romain Chevalier.
Plus de 200 personnes contaminées dans un abattoir à l'ouest du pays, près de 130 dans un autre situé au nord. Depuis plusieurs jours en Allemagne, le nombre de cas explose dans l'industrie de la viande. Des campagnes de dépistage ont donc été lancées et les mises en quarantaine se multiplient. Ce secteur qui compte environ 130 000 emplois est aujourd'hui au cœur du débat politique. Angela Merkel a d'ailleurs dénoncé les conditions de travail et de vie souvent précaires de ses employés. Des travailleurs majoritairement originaires d'Europe de l'Est, payés une misère pour des horaires extensibles et qui se retrouvent souvent à plus de 6 dans un même logement. Pour le chef du Parti Vert, cette crise sanitaire est l'occasion de réformer en profondeur la production de viande dans le pays. Un discours entendu par le gouvernement. Ce lundi matin, des discussions sont prévues pour instaurer des réglementations plus strictes.
Romain Chevalier à Berlin pour France Culture.
7h05, la suite des matins sur France Culture avec le journal de Catherine Dutu. Après 1,5 million d'élèves de la maternelle et du primaire la semaine dernière, c'est au tour de 150 000 collégiens de reprendre les cours, Catherine.
Les élèves de 6e et de 5e dans les régions classées en vert, les moins touchées par l'épidémie de Covid-19. Toujours rien dans les zones rouges, ni pour les élèves de 4e et de 3e, ni pour les lycéens. À partir d'aujourd'hui donc, pas plus de 15 élèves par classe de 6e et de 5e dans les zones vertes pour une reprise qui se fait la plupart du temps à mi-temps. Les professeurs vont encore devoir s'adapter à Kim Kasmi.
Enseigner tout en devant respecter les contraintes sanitaires, c'est le défi que vont devoir relever les enseignants, qui, faute de pouvoir terminer les programmes, vont aussi devoir s'adapter, comme Sandrine, professeure de musique, dans un collège en Auvergne. Avec le port du masque obligatoire, elle ne pourra plus faire chanter ses élèves.
J'ai essayé d'improviser en essayant de plutôt d'être vers une ouverture culturelle, peut-être avec des vidéos, des diaporamas que j'aurais préparés, parce que bien entendu, on ne pourra pas leur donner des feuilles, on ne pourra pas ramasser des feuilles. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très contraint. On va essayer de faire des choses pédagogiques avec eux, bien évidemment, mais ça va être compliqué.
Compliqué également de travailler avec le risque d'être contaminé. Car malgré les consignes sanitaires, il reste encore beaucoup d'interrogations selon Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES.
On constate là encore beaucoup trop d'établissements où les masques ne sont pas tous arrivés. Les collectivités territoriales nous disent qu'elles n'ont pas le personnel pour assurer un nettoyage régulier des parties communes, de tout le matériel qui sera utilisé dans les établissements. Il aurait fallu, avant de fixer une date, plutôt regarder quelle était la faisabilité d'une réouverture des collèges.
Si la présence en classe des élèves se fera sur la base du volontariat, cela ne sera pas le cas pour les enseignants qui devront justifier d'un motif familial ou de santé pour continuer de faire cours à distance.
C'est aujourd'hui que le Conseil scientifique devrait rendre ses conclusions au Premier ministre sur la tenue du second tour des municipales. En attendant la publication de son rapport, l'idée d'organiser un second tour le 28 juin prochain est une piste sérieusement envisagée à Matignon, Laurence Perron.
Qu'on en finisse et au plus vite, le plus tôt sera le mieux. Cette confidence d'une ministre lasse est un sentiment partagé par la grande majorité du gouvernement. Le Premier ministre en ballotage au Havre n'y trouve rien à redire, mais Matignon insiste, l'avis du Conseil scientifique sera décisif et il faudra un consensus large au Parlement et chez les Français. Ce qui ne veut pas dire un vote, c'est d'ailleurs a priori exclu, puisque dans ce cas, c'est mécaniquement la majorité présidentielle qui l'emporterait. Or, Édouard Philippe entend bien que chacun prenne ses responsabilités. S'il fait aujourd'hui le gros dos face à la soixantaine de plaintes qui visent l'exécutif dans sa gestion de la crise en général et de l'organisation du premier tour, la veille du confinement en particulier, s'il assume, il a peu goûté le courage fuyant de politiques qui criaient déjà un déni de démocratie s'il avait annulé ce scrutin en mars. L'avis du Conseil scientifique, il s'y attend, sera prudent, mais pas défavorable. La date du 28 juin, donc, tout indiqué, afin qu'on tourne la page une bonne fois pour toutes.
De Montpellier à Nantes, en passant par Bordeaux, Toulouse et Lyon, quelques centaines de gilets jaunes ont bravé ce week-end l'interdiction de manifester. Un certain réveil des mouvements de contestation sociale venu s'ajouter aux différents recours initiés depuis le début de l'état d'urgence, Florence Turme.
L'état d'urgence sanitaire a généré une centaine de recours devant le Conseil d'État et plusieurs centaines devant les tribunaux administratifs, la plupart contre des restrictions de liberté jugées excessives, recours qui se doublent également de protestations populaires. Nicolas Hervieux, avocat spécialiste en droit des libertés et enseignant à Sciences Po, l'analyse comme un appel au retour à la normalité.
Un appel puissant à un retour à une certaine forme de normalité, ne serait-ce que sur le plan démocratique, et des appels effectivement à manifester. Toutes les mesures que l'on va prendre pour lutter contre la crise économique qui va venir et qui est déjà là à nos portes vont évidemment susciter des questions sociales et économiques que n'ont pas suscité les précédentes crises sécuritaires liées au terrorisme. Et c'est aussi pour cela que l'exercice des droits fondamentaux en cette période où tout est bouleversé est absolument essentiel et mérite là aussi une réflexion sur la mise en balance entre le risque sanitaire d'une part, qui interdit les rassemblements, notamment sur la voie publique, et d'autre part, la nécessité d'une continuation de la vie démocratique, surtout face à des défis aussi immenses qu'une crise économique et sociale majeure qui impliquerait que l'on puisse manifester. C'est sans doute l'un des principaux défis. Comment revenir à la normalité démocratique nécessaire pour que notre pays fonctionne ? tout en tenant compte de la menace sanitaire et des restrictions aux libertés qu'elle justifie.
Samedi, le tribunal administratif d'Amiens a ordonné la suspension du couvre-feu préfectoral appliqué dans 3 communes de l'Oise. Malgré les violences urbaines et rassemblements sauvages, il ne s'agit pas d'une mesure justifiée et proportionnée, estiment les juges, mais bien d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, comme le dénonçait la Ligue des droits de l'homme.
À la une, à l'étranger, après 500 jours de crise et 3 élections, Israël a enfin un gouvernement, union de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz, qui doit se prononcer sur un projet d'annexion de pans de la Cisjordanie occupée. Un sujet explosif. Ce gouvernement hérite également d'une économie mise à mal par la crise du nouveau coronavirus. Des conséquences économiques et sociales dévastatrices également au Maghreb, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Aucun secteur d'activité n'est épargné. Tout cela dans une situation sociale explosive, Christian Chesneau.
C'est un avis de gros temps sur les économies du Maghreb qui se profile à l'horizon, avec une saison touristique d'ores et déjà compromise. En Tunisie, où le tourisme représente 400 000 emplois, de nombreux hôtels et complexes balnéaires sont fermés. Le pays pourrait connaître la pire récession depuis l'indépendance, prédit le FMI. Même constat de détresse économique au Maroc qui subit en plus une sécheresse qui impacte très sévèrement le secteur agricole. La pandémie est venue asséner un nouveau coup à l'Algérie déjà plombée par la baisse du prix du baril de pétrole qui a perdu 60% de sa valeur depuis janvier. Or, les hydrocarbures restent le moteur d'une économie algérienne peu diversifiée. Résultat, l'Algérie a été contrainte de tailler à la hache dans les dépenses de l'État et diminuer considérablement ses importations. Pour passer ce cap difficile, le Maroc et la Tunisie s'endettent massivement auprès des bailleurs de fonds internationaux. Partout au Maghreb, le Covid-19 a exacerbé les inégalités sociales criantes de Casablanca à Tunis en passant par Alger. Les pouvoirs en place sont confrontés à un dilemme, imposer des cures d'austérité alors que la situation sociale est explosive, tout en cherchant des pistes pour relancer l'activité économique avec des marges de manœuvre financières singulièrement étroites.
Covid-19, une facture économique salée pour le Maghreb. C'est un article à retrouver sur franceculture.fr. À suivre dans le journal de 7h30, la réunion virtuelle de l'OMS aujourd'hui sur la réponse internationale à la pandémie, avec les tensions sino-américaines et les vaccins comme sujet de friction. Le temps de ce lundi 18 mai marqué par de la pluie et des orages dans le sud-est du pays, du soleil partout ailleurs. Au meilleur de la journée, il fera entre 20 et 25 degrés en général du nord au sud, un peu plus frais près de la Manche avec 15 à 20 degrés et jusqu'à 28 près de la Méditerranée, Guillaume Hernet.
Merci Catherine Dutuy. Il est 7h12, dans quelques secondes, la question du jour.